On réfléchissait un petit peu comment articuler.
Oui, je pense qu'on peut passer à... Vous aviez en tête quoi là maintenant?
Bon, on peut faire ce qu'on veut.
Oui, oui.
Mais qu'est-ce qui... Non, le burn-out, je me disais que c'était pas forcément un bon sujet.
Ce serait quand même d'aborder... Enfin, la dynamique vanité coupable,
voilà, ça je trouve que c'est bien.
À comprendre les fondements de la psychologie.
Alors, est-ce que
le calcul psychologique, ce que Diel appelle le calcul psychologique,
oui, tout à fait.
De toute façon, il faut repartir de...
Tu veux le faire ou tu veux le faire
Parce que il faut repartir de
carrer
la fausse motivation. On peut écrire la redéfinition de la vanité, de la culpabilité.
Oui, oui. Et je peux le lancer, si voilà, tu veux, évidemment.
Parce qu'on avait soit un diaporama, soit l'écriture, je peux refaire l'écriture, ce serait mieux.
Oui, peut-être, l'écriture, c'est plus
important. Si, on est un tout petit groupe, dans l'exemple.
Tu as un diaporama, toi tu as un exemple. Et bien moi je peux faire le cadre schématique du calcul psychologique, et puis...
D'accord, et puis prendre des exemples, la suite d'après.
Oui, mais j'en aurais peut-être pas tant que ça, donc toi tu peux enchaîner. Très bien.
Bon, c'est un exemple qui
on va rester
à l'entreprise.
On va pas décaler un petit peu, je trouve. Bon, parce que
oui, c'est très bien.
Quel est votre souhait, votre désir?
Non, le calcul psychologique, c'est bien. Pour la fin de la matinée, c'est pas mal. Surtout qu'il est midi moins 10.
Quel est le timing de...
Je crois que Laurent a dit midi et demi, une heure et demie. C'est bien ça.
On va rentrer là-dedans.
Très bien. Si, bon, on va faire le calcul psychologique. Ça, c'est très intéressant d'avoir une spinoziste qui, évidemment...
Elle est spécialiste.
Oui,
Oui, on va faire ça maintenant. C'est...
Ça, je trouve ça génial. Mais tu sais... Vous savez, il faudrait quand même que vous nous donniez vos coordonnées parce que vous pourriez faire quelque chose sur Spinoza et Diel. Ça, c'est passionnant. Bien, ça. Avoir quelqu'un.
Mais je ne connais pas suffisamment Diel.
Oui, mais.
Oui. Si tu vas en chercher dans la.
Il n'y a pas de papier. Mais le papier, c'est arrivé.
Ah oui, tu utilises. Non, il y a une face. Petite, là. Je sais pas comment on peut faire pour. Pour la remettre. Il y a juste ça qu'on pourrait utiliser là. On va voir si.
Peut-être qu'il apporte tout concret.
Il faudra, c'est vraiment notre interprétation différente de la santé. Pour moi, c'est, mais il faut dire que c'est peut-être aussi le parcours personnel, mais pour moi, c'est l'ultime réalisation qui est pas pour moi, en tout cas.
Ah, voilà. Le papier.
Mais bon,
voilà. Discuter un peu encore.
Alors,
tient le plus à cœur, c'est l'estime de nous-mêmes. Estime de soi. Et l'estime, hein, c'est a estimo en latin, c'est une estimation juste de soi-même. Alors c'est un peu l'équivalent sûrement aussi de désir essentiel, mais estime de soi, c'est plus... et désir essentiel, ça peut être un terme encore un peu mythique, hein, mythologique, imagé, tandis que estime de soi, c'est vraiment le travail sur soi-même pour y arriver. Qui suis-je? Connais-toi toi-même. Alors on peut se dire qu'il y a, à partir de cette estime de soi, la vision de soi et la vision de l'autre. Alors, l'estime juste de soi, comme nous sommes des êtres mi-conscients, elle est bien difficile à obtenir. Et le problème, évidemment, c'est notre imagination, l'imagination sur nous-mêmes, soutenue par notre intellect, qui est capable de justifier une vision erronée de nous-mêmes et des autres. Et donc, Diehl propose un carré de la fausse motivation avec les termes que je vous donne comme tels, de vanité et de culpabilité exaltée par la loi d'ambivalence et projeter sur les autres l'accusation, non pardon, la sentimentalité, sentimentalité et accusation. Alors, il va encore falloir distinguer dans la vanité, on va dire, nerveuse et la vanité banale. Et donc, la culpabilité exaltée, nerveuse et banale, et de même pour les autres catégories. C'est ce que Diehl appelle les catégories de la fausse motivation. Alors, qu'est-ce que la vanité? La vanité, étymologiquement, c'est le vain, le vide. Donc, c'est une représentation de soi-même qui ne rend pas compte de ce que nous sommes. Et c'est une exaltation. Une exaltation vers un être parfait. Alors dans la perfection, chacun peut nourrir ce terme de perfection. L'artiste qui veut être un immense artiste, l'apprenti saint, S-A-I-N-T, qui veut devenir le saint. Chacun a ça, peut nourrir sa définition de la vanité nerveuse, hein. Icare qui veut aller dans les sphères spirituelles. Et puis la vanité banale, c'est plutôt Thésée, le pouvoir, la domination perverse, la multiplication des désirs. Donc ça, c'est à nourrir par chacun, hein, pour rendre vivant ce qui n'est qu'un schéma.
Ça tire et sur donc, les deux pôles de l'exaltation spirituelle, mm-hmm, ou de l'exaltation matérielle.
Voilà, c'est ça. Oui, c'est ah, aussi...
C'est une des formes de conflit. C'est-à-dire
la dualité esprit-matière.
Une des dualités fondamentales esprit-matière, parce que une des formules de la biogénèse de Diehl, c'est que sortie du chaos, dans l'apparence, dans l'existence, ça c'est presque une mythologie diehlienne, c'est-à-dire que l'esprit et la matière se sont séparés pour vivre ensemble et tentent pendant des siècles et des siècles de se réunir dans un Éden parfait d'harmonie, mm-hmm, et voilà, et ça marche pas, c'est un petit peu une espèce de mythologie diehlienne, ça, de vision des choses, et l'autre aspect, donc, qui est spinoziste dans ce sens-là, c'est-à-dire que On a opposé comme ça esprit et matière, mais en fait les deux sont interpénétrés parce que rien n'existe sans l'autre. Et là on retrouve la pensée du monisme Spinoza, qui est un terme qu'il utilise, effectivement. Et donc dans la vanité, ça, on a ces deux formes-là, ouais. Hein, qui cachent derrière, si je peux me permettre, hein, qui cachent derrière et qui masquent la fierté de soi. Mm-hmm. C'est-à-dire que derrière chaque catégorie de la fausse motivation, c'est ça qui est intéressant, il y a l'élan qui se pose derrière et que, je veux dire, la fierté de soi, l'enthousiasme de soi, la passion au sens positif, je veux dire, elle est distordue dans cette catégorie de la fausse motivation qui va jouer sur ce terme que j'emploie souvent, où j'emploie un petit peu, c'est le billard infernal. Après, on est dans le billard infernal. Il décrit ce billard infernal. Alors, on va partir
parce
de là.
Parce que
après, on
va plus l'être se surtend, parce qu'il y a surtension, puisque c'est irréalisable. Ni la perfection nerveuse vers l'esprit, vers la spiritualisation, vers la sublimation, vers le détachement des désirs, ni l'exaltation banale de tout à... C'est tout être et tout avoir, la vanité, en dit en cordial, n'est réalisable. Donc ça va se basculer dans le pôle ambivalent des culpabilités. Je n'arrive pas à être un saint, je n'arrive pas à me détacher de tous les désirs matériels, à sublimer ma sexualité, ou je n'arrive pas à obtenir le pouvoir et à être le maître du monde. Donc, et on le vit en culpabilité de ne pas réussir. Et donc cette ambivalence, oui, si tu dis billard infernal, c'est un véritable tourment. Mais derrière la culpabilité exaltée, aussi en positif, il ne faut pas l'oublier, il y a la culpabilité essentielle qui est le pôle positif antithétique. Là, on est dans l'antithèse et là, on est dans l'ambivalence.
Et donc, la culpabilité essentielle, il faut la comprendre comment à nouveau ?
Ben, comme cette voix intérieure.
Et comme cette voix intérieure.
Qui me dit, mais tu fais fausse route. Ouais, en voulant dépasser, mettre la barre trop haut, dépasser tes forces, tu t'épuises, tu t'éreins, tu ne tombes que dans des culpabilités exaltées. Et les symptômes accompagnent, des symptômes psychopathiques, enfin, se ronger les ongles. Moi, je me suis longtemps rongé les ongles. Je voulais tellement être une sainte que... chose dont j'étais absolument incapable.
La culpabilité,
je me rongeais les ongles. J'ai une patiente actuellement qui ferme les fenêtres 20 fois avant de quitter son domicile le matin, les fenêtres et les portes. Alors on peut certainement travailler sur les deux pôles. Bon, sa vanité d'être parfaite, elle élève seule sa fille, c'est difficile, et donc elle se crispe en surtension dans cette éducation de sa fille, mais en même temps, comme elle s'oublie elle-même, il y a beaucoup de désirs qui ne sont pas satisfaits, et elle ferme les portes obsessivement à tous ses désirs pour rester une mère parfaite. Ça, c'est le langage symbolique aussi des débuts de journée de cette femme. Qui en souffre beaucoup.
L'autre noyau de la culpabilité exaltée, c'est que c'est la grimace de la culpabilité essentielle. C'est-à-dire que derrière la culpabilité exaltée, on a besoin de retrouver notre culpabilité essentielle. Parce que cette culpabilité essentielle, dans la biogénèse, dans la psychogénèse chrétienne, elle est cette idée que j'ai une culpabilité exaltée irréalisable, qui est peut-être en pôle avec ses vanités, parce que la vanité, quelquefois, on ne va pas en souffrir.
C'est vachement bien. Elle est plutôt triomphante.
C'est agréable, cette histoire de... c'est très jouissif, etc. En revanche, ce dont on va souffrir, sans le savoir, ou quelquefois en sachant, c'est de la culpabilité.
Et ce sont des
angoisses. C'est de la culpabilité qui va être sous forme du remords, de l'angoisse. Et là, on souffre beaucoup de cette culpabilité. Et le problème, justement, toute la dynamique... c'est de voir que derrière cette culpabilité exaltée, il y a l'expression d'une culpabilité qui...
Il y a peut-être.
L'expression d'une culpabilité essentielle, ou il y a peut-être l'expression, alors là, parce que c'est toujours intéressant de le rattacher à un désir, quel est ton désir, et de rattacher la culpabilité de l'homme, quel est mon désir. Si mon désir est lui-même complètement exalté, et là on revient sur le billard vanité-culpabilité, de se dire, ah, est-ce que quand je souffre, c'est pour ça qu'on est, je veux dire, il faut être gentil avec soi-même aussi. Dans mon tourment de ma culpabilité, qui est plutôt le nerveux, hein, je veux dire. Mais tout le monde, enfin, on peut être dans des culpabilités de n'importe quoi. Il y a derrière se dire, mais attends, t'as peut-être quelque chose dont tu as besoin, dont tu ne connais pas la source, et qui peut aussi te ramener. Et c'est ça, cette dimension, parce qu'on tourne beaucoup, toute cette dimension de culpabilité essentielle. C'est des grimaces, des écrans. Moi j'aime bien ce phénomène d'écran, c'est qu'on a des écrans comme ça, on revient sur l'image, on balance des choses dans nos écrans, et ces écrans, ils vont flouter un petit peu tout notre, ce qui peut être de nous-mêmes, ou de notre tourment, ou de notre désespoir, ou de notre, nos erreurs de trajectoire, de vie, d'engagement, de désengagement, c'est tout ça. Hein, et donc là, c'est là comme...
Alors dans l'ambivalence, on oscille, et en permanence, hein, entre surestime et sous-estime de soi, et sur tous les plans, et dans toutes les pulsions. C'est très inconfortable et douloureux.
Mais ça se vit au quotidien. Hein, est-ce que j'ai fait une bonne conférence hier soir ?
Et c'est l'angoisse d'opinion.
Est-ce que on a pensé de moi ? Est-ce que c'était nul, etc. J'ai pas fait assez bien, etc.
Ça, l'angoisse d'opinion,
c'est-à-dire ça se vit au quotidien ? Est-ce qu'on parle bien ? Voilà. Et je crois qu'il y a...
L'angoisse d'opinion qui est un
très
intéressant chez Diel, qui est le regard de l'autre. Puisque je ne suis pas centrée sur moi dans une estime pondérée de moi-même en connaissant mes qualités, mais mes limites aussi, eh bien, les autres sont mes juges. Or, ce qui est apaisant, c'est d'être son propre juge. De dire je ne me laisse pas juger par les autres, je sais que je suis défaillant, que je n'ai pas telle qualité, mais ma foi, de quel droit l'autre me jugerait-il ? Il a ses qualités, il a aussi ses défauts. Et là, on est tranquille avec soi-même. Mais si on est dans la surtension, et donc qu'on bascule en permanence dans la sous-estime de soi, parce qu'on a des critères qui sont irréalisables, on est constamment dans l'angoisse d'opinion et parasité par le regard des autres sur soi et par l'angoisse de ne pas être à la hauteur de ce que les autres veulent. Mais le tout, c'est d'être, pour être bien dans sa vie, c'est d'être à la hauteur de ce qu'on veut être et dans le déploiement de ses qualités.
L'angoisse d'opinion, c'est...
Ça, c'est une clé très intéressante.
C'est une problématique forte, l'angoisse d'opinion. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'intériorise l'autre en moi ? Et c'est un tourment quasiment permanent. Quoi.
Mais dans l'éducation, le problème, c'est que... ça, c'est à réfléchir. Est-ce qu'on élève nos enfants dans... le fait d'être centré sur eux-mêmes et de se déployer eux-mêmes, ou est-ce qu'ils sont déjà dans le regard de leçon, évidemment. Papa et maman trouvent que tu n'es pas assez ceci, assez cela. Peut-être, mais à ce moment-là, on va t'aider à l'être plus. Et puis, c'est à toi de juger quand même quelles sont tes forces. Mais le scolaire, vous le savez bien, c'est terrible. C'est là que l'angoisse d'opinion se déploie, et des camarades, et des maîtres...
tout le poids des modèles de perfection.
Oui, c'est tout le monde.
Absolument. Que nous intériorisons de partout.
Et pour, puisqu'on dit que c'est une problématique du management, je pense que c'est un problème fondamental des managers, des chefs de quoi que ce soit. Quand on est chef de quelque chose, et donc amené à avoir des responsabilités, je veux dire, comment on va prendre ces décisions ? Est-ce qu'on va prendre par... angoisse d'une opinion, et l'opinion, alors quand on va dans la politique, voilà, c'est même dans les petits groupes, l'opinion, est-ce que je vais le prendre par angoisse d'opinion, et que je vais céder à ça, ou est-ce que, et d'être d'identifier cette angoisse d'opinion, c'est pas important. C'est-à-dire, voilà, ce que vont penser les autres vont m'amener à décider les choses. Et ça peut m'angoisser, me culpabiliser. Et donc là, on a un autre billard à faire. Chaque cercle, chaque pôle peut être lui-même un billard à faire mal. C'est-à-dire qu'on peut, mais si je sais je suis en angoisse d'opinion, je me positionne, alors c'est complètement différent ce que tenir compte de l'opinion.
Voilà, parce que l'opinion est bien claire.
On est obligé de tenir compte de l'opinion.
Oui, c'est
bon, on est obligé de prendre des décisions, on tient compte de l'opinion, c'est complètement différent d'être subconsciemment taraudé. C'est parce que là, on est au niveau du mi-conscient, tout ça. On peut être taraudé par ces opinions de l'autre. C'est comme, est-ce que ça vous est arrivé mille fois d'être dans une posture, au lieu d'être vous-même, de dire, mais tiens, mon chef, mon patron, ma référence, ou mon père, ou ma mère, mon père, ma mère, etc., comment ferait-il à ma place?
On me demanderait de.
On me demanderait.
Et je pense qu'ils sont très mieux.
Et je pense qu'il vaudrait mieux utiliser l'expression de tenir compte de la vie à ce moment-là, dans la terminologie. Le linguistique est aussi très important. Hein. L'opinion, c'est le flou, c'est le vague, c'est ça part de l'affectivité aussi. Parce que le regard de l'autre, il est aussi conditionné par ses propres exaltations et ses propres culpabilités et ce qu'il projette sur nous. Et on va le voir à partir de ce qu'on projette sur l'autre, est affectif. Voilà, c'est ça.
C'est un miroir déformant.
Voilà.
Et déformé. Et donc,
mais qui reflète ce qu'on lui envoie.
Une fois l'expérience, je lis dans votre regard, j'interprète quelque chose, je crois que vous pensez de moi, et je ne sais absolument pas ce que vous pensez de moi, et je vais réagir à faction que je crois que vous pensez de moi, et souvent, on est obligé de dire, attends, je ne sais pas, parce que combien de fois ça vous est arrivé comme moi, devant quelqu'un qui se met à rire ou rigoler, etc. Et dire, vous foutez de ma gueule. Mais non, je suis heureux de ce que vous venez de me dire. Bon.
Et dans le couple, ça c'est une expérience qu'on fait. On est dans l'interprétation.
C'est tout le temps. Ça c'est dans l'intime, mais aussi c'est dans le collectif. Je veux dire, vous quittez la salle là où je suis en train d'exposer quelque chose, mais ça veut dire que vous trouvez si nul que ce que je raconte. Mais non, j'ai besoin de faire pipi. j'ai quelque chose qui m'attend parce que j'ai un problème. Et non, on interprète l'angoisse d'opinion. C'est ce mécanisme de l'angoisse d'opinion. Je veux dire, il guide le monde. Hein. Oui. Là, ça, on peut aller jusqu'au fait que cette angoisse d'opinion, elle peut guider le monde et à sa perte quand même. Hein, est-ce que c'est par angoisse d'opinion que personne n'a dénoncé vous connaissez ce poème, je ne sais plus, qui dit quand ils sont venus arrêter.
Personne
n'a arrêté. Mon voisin juif.
Hein?
C'est Prévert. Non, c'est pas Prévert. Je n'ai rien dit, et quand ils ont venu arrêter. L'autre, c'était une histoire sur le nazisme, je n'ai rien dit. Et quand il s'est arrêté, il n'y avait plus personne pour dire. Je veux dire, il n'y avait plus personne pour dire qu'il fallait pas le faire. Donc, c'est aussi, l'angoisse d'opinion, ça peut être puissant dans la destruction.
C'est très puissant.
Et dans la destruction sociale. Donc, c'est pas simplement.
Mais elle naît du fait que on n'a pas ce centrage sur soi-même et le fait qu'on n'est pas le juge de soi-même. Il y a beaucoup de juges dans les mythologies, hein, le juge des enfers, ou le juge plutôt sur l'Olympe, Athéna, qui serait notre regard intérieur et qui nous donne des armes. Athéna, elle donne à Persée Pégase, le cheval, elle lui donne son bouclier avec Méduse en médaillon. Et le bouclier de Persée lui permet de regarder la vanité en face par le biais de son bouclier. C'est toute l'aventure introspective et elle lui donne aussi l'épée d'or, Chrysaor. Donc on a des armes pour se regarder soi-même. Mais il faut un peu un biais aussi.
Et ben, l'aventure analytique, introspective, avec un autre, c'est la personne qui fait tout le boulot, mais elle a un biais, elle a ce bouclier d'Athéna, c'est une protection pour pouvoir se mettre face à soi-même. Parce que il y a une angoisse mais positive à se mettre face à soi-même quand même, et à tout ce labyrinthe intérieur.
Un petit exemple justement par rapport à cette angoisse d'opinion tirée d'une entreprise. Dans une entreprise pharmaceutique que je connais un petit peu parce que j'enseignais la pharmacie. Et l'histoire est la suivante. C'est quelqu'un, donc un employé, qui était toujours sollicité par son patron pour faire des heures supplémentaires quand il y avait... quand il fallait produire plus. Donc c'était toujours à lui qu'on faisait appel. Donc, souvent en tout cas, le soir, c'était lui qui était de présence. Et alors, un jour, il en a eu marre. Il dit, mais c'est pas possible, pourquoi c'est toujours moi qui suis appelé par le patron? J'en ai marre, ça va pas du tout, je comprends pas, pourtant j'ai rien fait de particulier. Et alors, il en parle à son représentant du syndicat, qui ne comprend pas non plus, dit, oui, c'est pas normal que tu sois toujours sollicité. Et donc ils vont quand même voir le patron pour lui poser la question, comment se fait-il que c'est toujours à moi que tu fais appel? Et finalement le patron lui dit, mais écoute, tu sais, je fais appel à toi parce que je sais qu'avec toi le travail sera bien fait. Vous voyez, donc lui c'était imaginé,
ouais, finalement. Une punition.
Et puis en fait, non, il faisait appel à... Et ça, c'est le problème du non-dit aussi. Ouais.
Et alors, l'intellect, qui est une fonction positive, hein, peut aussi se mettre au service de la fausse motivation et justifier nos surtensions nerveuses et banales et nos culpabilités, parce qu'il y a une satisfaction à être dans ces pôles-là. Il y a aussi une satisfaction à être dans la culpabilité exaltée. Parce que si je suis dans la culpabilité de ne pas être le parent parfait, de ne pas me détacher suffisamment de mes désirs, il y a une satisfaction à le faire, sinon on ne le ferait pas. Quel que soit l'état dans lequel on se mette, c'est par calcul de satisfaction. Et donc, cette vision de soi, elle est projetée sur l'autre.
C'est-à-dire que une des grandes difficultés, c'est de se sentir soi-même, vous l'avez dit. Et une des grandes difficultés, c'est de sentir que, de savoir ce qu'on vit un petit peu, et de mettre des mots sur ce qu'on vit. Parce que là, quand on le développe comme ça, ça a l'air peut-être un petit peu sauf intellectuel, soit trop schématique, soit trop simpliste. Or, justement, pour pouvoir... il y a deux manières d'envisager. Soit on le vit dans le tourment. Souvent, c'est ça. Hein, je suis tourmenté. Et d'arriver à mettre, à cadrer un petit peu les choses, ça peut nous... Sinon, nous détourmenter, déjà un petit peu mettre une carte, une espèce de cartographie comme ça qui nous aide. Mais c'est pas si facile que ça de faire la différence entre un sentiment de vanité exaltée, une angoisse d'opinion, etc. C'est pas si évident. On essaie d'avoir des représentations mentales, mais c'est souvent des retards. Il faut sortir de la représentation mentale intellectuelle pour avoir une représentation vécue. De ce qui ça. Et ça, c'est tout le travail dynamique qui est difficile. Moi, je prends un petit exemple sur moi, parce que finalement, quand j'ai commencé à lire, c'est formidable, il parle de moi, c'est génial. J'ai commencé à travailler là-dessus. J'étais jeune, mais je crois que je ne serais juste pas rien. Et puis, je ne m'en sortais pas parce que j'arrivais pas à trouver le. J'ai eu besoin de mettre en situation avec l'autre, d'avoir justement espace intersubjectif, en l'occurrence analytique, pour pouvoir sentir les choses, sinon je ne m'en sortais pas, sinon on reste dans un niveau trop intellectuel, le contraire de l'introspection. Quoi. Et donc, là où je voulais dire, c'est que Alors, en même temps, il y a deux choses. On n'a pas besoin de tout ça. On n'a pas besoin de tout comprendre, tout ce mécanisme. Souvent, pour se désangoisser, on a besoin juste d'un petit fil. Déjà le truc. Donc, tiens, ah ouais, c'est ça, une angoisse d'opinion. Pouf, ça c'est clair. On n'a pas besoin de tout comprendre, on n'a pas besoin de tout débobiner. C'est ça aussi l'expérience qui est intéressante. Mais en même temps, c'est à partir de la sensation de quelque chose qu'on le fait. Donc, c'est pas si facile à faire. C'est pas si facile à faire. Et je pense que pour y arriver, on a besoin de se désintellectualiser, même si on s'intellectualise beaucoup avec des mots. C'est un petit peu la prudence que je voudrais mettre par rapport à ça.
Oui, et donc la projection sur l'autre, la vision de l'autre, elle n'est que la vision qu'on a sur soi. Et donc dans la sentimentalité, on va accrocher à autrui en surestime. On va trouver l'être qui est en écho à nous-mêmes. Diane a beaucoup parlé d'île de délectation, en particulier pour le couple. Trouver son alter ego qui va venir avec moi sur cette île déserte où nous sommes deux êtres supérieurs et nous allons pouvoir, en nous regardant les yeux dans les yeux, nous dire que nous sommes des êtres accomplis, supérieurs, etc. Ce qui va évidemment se plonger dans les accusations redoublées très très rapidement. Donc la projection sur l'autre d'un être exceptionnel. Ça, on le vit dans toutes les situations de la vie, un prof avec ses élèves, des parents avec leurs enfants, le couple, et peut-être aussi en entreprise. Je suis le patron idéal et mes ouvriers, ils sont parés de toutes les qualités. Donc c'est la surestime de l'autre qui sort de la surestime de nous-mêmes. Et puis, la plainte aussi, que le monde ne reconnaît pas notre valeur, qui est aussi très proche de l'accusation.
La sentimentalité, c'est un pôle extrêmement intéressant. Parce que ça a... c'est le grimace de l'amour, quand même. C'est le grimace d'aimer les autres. Je veux dire, c'est... ce qu'ils sont bien, ce qu'ils sont... C'est la survalorisation de l'autre qui marche en même temps avec la sous-valorisation de moi. Et la sentimentalité, elle a quelque chose de gentil, d'agréable,
c'est une pause de la bonté.
Un petit peu sympathique, c'est une distorsion de la bonté et de l'amour de l'autre. On rejoint cette histoire d'altruisme distordu dont vous parliez. Et aussi, si on parle de l'amour sentimental dans l'éducation, l'amour sentimental de l'éducation, c'est la catastrophe pour l'enfant. C'est-à-dire que l'amour sentimental de l'enfant, c'est la survalorisation de l'enfant au-delà de ce qu'il est.
Oui.
Je veux dire, et c'est la perte de son élan pour l'enfant.
Pourquoi c'est la perte de son élan ?
Parce que le plus grand acte d'amour pour un enfant, c'est Dolto qui dit ça, le plus grand acte d'amour qu'on peut faire à un enfant, c'est de dire non. C'est une phrase de Dolto, mais elle s'enracine un petit peu. C'est que l'amour sentimental, c'est ce qu'on va dire à l'enfant, mais tu es beau, tu es gentil, tu es ceci. C'est-à-dire, c'est à l'extrême ce qu'on comportementalise dans le renforcement positif. Vous savez ce que c'est, le renforcement positif? Ah, vous avez fait ça, bravo, c'est très bien. Alors, c'est vrai que les gens qui sont en inférieur, enfin, qui ne sont pas bien, le renforcement positif, c'est une aide. Alors, entre le renforcement positif et la sentimentalité, qui est une manière de le laisser croire qu'il est un être
exceptionnel
et qu'il est un être et qu'à la limite, il n'a pas besoin de faire d'efforts. C'est dans ce sens-là, c'est-à-dire que l'enfant, je reviens souvent à l'enfant, mais l'enfant en nous, l'enfant, il faut aussi qu'il exerce ses forces. pour parler du petit bébé l'autre jour, hier, je veux dire, le petit bébé, c'est bien pour lui de, d'avoir son autonomie. L'autonomie du petit bébé, c'est 2 minutes d'attente. Tu es capable d'attendre 2 minutes ton biberon. Je suis là, je te dis, je t'ai entendu, je suis là, etc. Je suis présent, mais tu, ça, ça va venir, etc. Tu as un petit peu faim, etc. C'est, je parlais des germes du désir hier soir. C'est le germe de l'autonomie de l'enfant. Bon, et la sentimentalité, pourquoi elle pompe l'énergie vitale? Donc c'est la pourriture de la sentimentalité. Et je peux être très violent par rapport à ça, parce que ça pompe l'énergie de l'enfant, ça, ça casse l'estime de soi de l'enfant, parce que au lieu de pouvoir, ou de l'adulte, au lieu de pouvoir s'exercer par rapport à la vie, eh bien on ne peut plus s'exercer, on lui coupe ses capacités d'exercice. Et vous voyez, elle dit non, non.
Oui, la façon dont vous écrivez, moi j'aurais plutôt l'impression que la sentimentalité, ça laisse tellement tout ouvert qu'il n'y a pas de résistance que l'enfant doit opposer. Donc en ce sens, il perd sa vitalité.
Absolument, c'est dans ce sens-là. C'est-à-dire, et même ça peut je veux dire, ça peut mettre l'enfant en difficulté parce qu'il aurait envie de s'affronter un petit peu les choses. On a besoin quand même de dire tu vas construire ce bateau, oh non, tu vas pas y arriver, attends, je vais te l'acheter, mon chéri. Mais non, j'ai envie de construire le bateau, j'ai envie de le faire, je vais me casser la figure, etc. J'ai envie de le faire. Donc l'amour sentimental, il est je veux dire,
lénifiant.
C'est pour ça que c'est une catégorie de la fausse motivation. On t'avait mis l'estime de soi au centre, et bien la sentimentalité de l'autre, c'est une projection. Et puis en même temps, c'est une infériorisation de soi. Oh, ce qu'ils sont bien. Et moi, ce que je suis nu.
Alors là, j'ai fait des flèches dans tous les sens, parce que ça tourne effectivement dans tous les sens. La culpabilité. La vanité, elle renvoie à la sentimentalité, c'est au choix d'un autre exceptionnel, mais ça parle aussi de la culpabilité exaltée, que moi je suis rien et que l'autre est tout.
Et le coaching sentimental, c'est une catastrophe. Le management sentimental,
c'est une
catastrophe. On peut appliquer tout ça au
management. Tout à fait.
Le management sentimental, c'est une catastrophe. Je veux dire, c'est-à-dire ce management justement qui est dans l'angoisse d'opinion, qui ne tient pas compte des réalités et qui va mettre... Alors effectivement, on va être peut-être soi-disant un petit peu plus aimé, mais non, le management sentimental, c'est les chefs
aussi,
sentimentaux,
aussi, non,
c'est épouvantable, c'est le contraire de l'estime juste. Comment ? C'est profondément manipulateur. C'est profondément manipulateur. Alors, et un peu plus loin, on a le pervers. Après, quand on va dans la direction, on va dans la perversion, c'est-à-dire que je prends mes jouissances là-dedans. Là, on n'est pas dans la perversion, on est dans les catégories de la fausse conscience. Après, c'est bon, on va dans la
perversion. Il y a toutes les nuances.
La
perversion. Oui, parce que là aussi, quand on entre alors dans la phase d'accusation qui inévitablement va arriver, casse l'autre. Voilà. J'ai eu un manager dans mon équipe. Qui était soi-disant charismatique, etc., avec toutes les conséquences, et qu'après, il y avait des gens qui s'écroulaient et qui se liquéfiaient littéralement.
C'est ça. Oui, parce que puisque ce n'est pas la réalité de l'autre, on bascule immédiatement dans l'accusation. Comment tu n'es pas celui que j'ai imaginé que tu étais? Mais comme ce ne sont que des imaginations, tout cela, ce ne sont que des imaginations soutenues par l'intellect négatif de fausses justifications. Mais si, si, j'ai tout à fait raison de te dire que...
Oui, bon, on va casser des jeunes brillants par ce système.
Mais actuellement, on vit un petit peu, on est dans une époque justement où on est dans un excès de sentimentalité qui a pour conséquence un amenuisement et un affadissement de cette force de défi de l'esprit. C'est-à-dire, il y a tellement. On arrive à une sorte de banalisation parce que l'élan vital se réduit considérablement. Et donc les enfants, pour reprendre ce que je disais, ils perdent cette force de défi qui est donc dans cette dimension spirituelle.
Il y a moins de névrosé, il y a plus de borderline.
De borderline. C'est quoi les borderline?
C'est-à-dire que dans une époque un peu rigide, ça c'est l'historicité aussi de l'évolution,
quand il y a des règles rigides dogmatiques, on va dire on se heurte à ces machins. Et donc on fabrique de la névrose sur le plan pathologique. Et quand on est dans des époques un petit peu de dissolution, un petit peu de tout ça, ouais, un petit peu sentimental, on voit apparaître sur le plan psychopathologique des êtres qui ont des structures internes qui sont faibles, très mollassonnes, faibles.
Ouais,
c'est la problématique borderline ou des personnalités un petit peu limites. C'est des gens qui sont une espèce de manque très grand, des puissants fonds sur le plan de l'amour et de l'estime d'eux-mêmes, qui ont des structures internes extrêmement faibles. La névrosée, il a une structure interne forte qui nous fait souffrir, etc. Mais on voit une évolution aussi. J'accroche avec ce que tu dis sur notre époque et notre manière. Alors, notre manière aussi bien d'éduquer que de gérer, que aussi des valeurs qui sont en conflit. Là, on revient à cette problématique de conflit de valeurs, je veux dire, où tout est voilà, une espèce de lénification de la pensée. Sauf que ça a des conséquences, et ça s'image. Donc voilà, c'était un petit peu de cette histoire de management sentimental.
Et on peut aussi distinguer la sentimentalité nerveuse et la sentimentalité banale. Tu es mon alter ego sur le plan de la sainteté, et ou alors je te retrouve sur le plan de la perte de toute culpabilité. Je sais pas, Gilles de Rais, il avait des compagnons pour oser ce que nul n'avait osé. Hein.
Ça, c'est le phénomène. Après, on peut développer sur le phénomène du groupe. Mm-hmm. On va se retrouver dans les phénomènes de groupe. Oui, oui. Les phénomènes de groupe dans lesquels on va se retrouver, c'est les phénomènes de groupe vanité-sentimentalité. Ouais. Parce que la culpabilité, on ne fait pas un groupe avec la culpabilité.
Et les accusations.
Et les accusations, on ne fait pas un groupe. On fait de la parano, de la violence. Mais on peut faire des groupes.
Ouais, c'est intéressant.
On peut faire des phénomènes de groupe sur les deux pôles, sentimentalité et vanité. Je dis, on est bon, on sait.
Sauf que tout ça va se renverser.
C'est tout
ça. Sauf que le groupe, il ne va pas tenir longtemps dans la sentimentalité.
Il peut tenir sur des générations. Il peut tenir sur une fille, il peut tenir sur une époque, il peut tenir longtemps quand même. Hein.
Bien, c'est tout le problème du fanatisme qu'on vit aujourd'hui aussi.
Oui.
C'est vrai, c'est des groupes qui se forment dans cette dimension de sentimentalité exaltée.
Dans le communautarisme actuellement, il peut y avoir des choses comme ça. Et il y a l'accusation d'autrui. Alors, après, on rentre dans des problématiques.
Des groupes qui sont constitués, le hooliganisme aussi, des groupes qui sont constitués pour valoriser.
Qui sont des auto-valorisations des autres dans un soutien.
Avec une culture, mais dans la même démarche.
Mais c'est tout le mimétisme affectif qui
est. Tout le mimétisme. Oui, c'est un mécanisme.
Voilà. Oui, et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que, je pense, dans la société aujourd'hui, on a des excès de vanité nerveuse et banale qui répondent à la vanité banale. Enfin, donc, ils se renforcent l'un l'autre, j'ai l'impression.
Et oui, ça se renforce l'un l'autre. Ouais. Le pôle de l'un se renforce l'un l'autre.
Les djihadistes sont, selon ce que je comprends, dans la vanité nerveuse, idéal exalté, et qui répondent à la vanité banale, entre guillemets, si je caricature, de la société de consommation amorale, dépravée, etc.
Et dans leur sein, il y a aussi bien des grands exaltés que des voyous.
Oui, c'est ça. Exactement.
On retrouve là-dedans des voyous et des pervers et des grands exaltés. C'est pour ça que c'est complexe. Et ça s'organise sur des histoires culturelles, historiques. Donc
Mais alors, l'idée du billard infernal, je la trouve jolie. Mais donc, on sent bien qu'il y a une sorte de spirale négative, de cercle vicieux qui se met en place. Si on revient au mythe, on voit que même les héros les plus qui tombent en déchéance peuvent quand même toujours un moment revenir. Et donc voilà comment est-ce qu'on passe du billard infernal négatif à un billard positif. Je ne sais pas si vous pouvez
l'expliquer. On va en parler.
Encore peut-être juste un élément.
Ça c'est pour après peut-être.
Du pôle accusation. Qui sont toutes les banqueurs.
Oui, l'accusation
pour ce. Alors, on bascule dans l'accusation par les trois autres pôles aussi. Déjà, je suis supérieur, tu es inférieur, je suis parfait, j'ai les qualités, tu ne les as pas. se décharger de sa culpabilité exaltée, c'est pas moi le coupable, c'est toi. Et puis la déception par rapport à la sentimentalité. Maintenant, comment on remonte à notre culpabilité essentielle?
Mais avant, je pense qu'il faut développer aussi l'accusation.
Il faut
que tu développes l'accusation. Parce que l'accusation, c'est quand même... C'est la projection. Il y a plusieurs choses. Il y a la projection de notre culpabilité, qui est le mécanisme le plus simple. C'est l'enfant qui dit, c'est toi. Moi. Voilà. Et comme m'a dit une maman l'autre jour... avec une petite fille dans laquelle il y a des problèmes. Elle avait 2 ans, et puis à 2 ans, elle se cogne la tête sur un mur, et elle dit « Ah, c'est toi qui as mis le mur là !» Mais c'est normal qu'elle dise ça à l'enfant à 2 ans, oui. Parce que sa structure de personnalité n'est pas encore faite, et donc elle est dans un monde animiste et projectif. Oui. Sauf que 8 ans après, la maman, elle dit « Vous voyez bien qu'il commençait déjà à m'accuser. Et vous voyez bien qu'elle m'en veut, docteur. Donc je l'amène au psychiatre. Au pédopsychiatre. Vous voyez bien, déjà à 2 ans, elle m'accuse. Et, ouais. Et donc, c'est, je veux dire, or, cette mère, elle, à 2 ans, il sait l'animisme. C'est-à-dire la projection, les êtres animés. Donc c'est un être animé qui m'a fait quelque chose. Nous, on est aussi comme ça, on est des êtres animés. Je veux dire, je me cogne quelque part, c'est de la faute. Bon, mais ce qui est normal à 2 ans, je veux dire... donc là, cette accusation de l'autre, c'est la projection de la culpabilité, et puis c'est le renversement aussi de cette santé mentale, que vous avez bien décrit, qu'on voit très bien. Le plus caractéristique, c'est les quêtes sentimentales dans le métro à Paris, il y en a plein. Je veux dire, je suis malheureux, etc., je suis gentil, etc. Et si vous dites non, vous prenez en gros un coup de couteau dans la gueule. C'est-à-dire qu'on a un renversement de cette posture. Alors là, c'est vraiment très caricatural, mais dans le quotidien, ce que vous avez décrit, il y a quelque chose de cette bascule.
Après tout ce que j'ai fait pour toi.
Dans les couples aussi.
Dans le couple, c'est formidable.
Un laboratoire.
Et dans la sexualité, ça fonctionne aussi, ça s'incarne tout ça dans la sexualité, dans le couple, etc. Et donc, cette accusation, mais l'accusation, elle a derrière le besoin de dire il y a quelque chose qui a été faux quand même. Et je veux dire, dans l'accusation, il y a du juste aussi. Important qu'on puisse savoir qu'il y a quelque chose de défaillant. Par exemple,
mettre le doigt
dans le monde, les autres sont insupportables. Les autres sont un enfer. Mon manager est un salopard. Mon chef d'équipe ou mon truc ou mon collègue est un insupportable. Je suis dans l'accusation. Mais derrière, il y a le fait que l'autre, il est aussi faux motivateur. C'est-à-dire que mon manager, mon patron, mon machin, mon collègue, etc., il est... il est un puits, il est mal foutu.
Il fonctionne comme moi.
Il fonctionne comme moi. Ou il est pas parfait, il n'est pas ceci. Donc c'est important que... Diel disait... L'amour, aimer l'autre, c'est pouvoir regarder ses défauts. C'est un joli renversement, c'est-à-dire que ça, c'était pour la vie du couple.
Et comprendre.
Oui, comprendre. Mais c'est d'autres, il a un défaut. Tu as un défaut que je ne supporte pas. Et il avait une autre formulation, qui est une formulation faux motivateur parmi les faux motivateurs. C'est-à-dire que je suis dans un... Mon patron, mon voisin, mon chef de machin... Tout ce que je veux, mes relations, ils sont aussi avec leurs défauts. Et il faut que, aussi, c'est là, derrière l'accusation, je calme cette accusation, mais je dis, attends, on va voir ton défaut. Tu ranges mal tes chaussettes. Tu ne soulèves pas ta culotte de chiottes quand tu pisses.
Pas gagné,
tu
ça.
Fais... On la connaît, celle-là.
C'est 70 ans d'une vie.
Ah, excellent.
tu, non, mais plus, tu prends une position. Et ben c'est un défaut, c'est un. Il y a des troubles de caractère aussi. Je veux dire, donc, eh ben, il faut mettre le doigt là-dessus. Je veux dire, dans l'accusation, derrière l'accusation, il y a la, je dirais, la faute vraie de l'autre qu'il faut bien que j'accepte. Enfin, que je vois, oui, que j'identifie, j'accepte, la réalité que j'identifie. En fait. Et ça fait du bien.
Oui. Il faut dire qu'on aimerait tellement vivre en milieu d'élaboration avec un être aussi exceptionnel que soi.
Absolument. Ça fait du bien d'accuser justement l'autre. Justement l'autre. Et ça fait du bien si l'autre. Avec justesse. Et ça fait du bien aussi l'autre est capable de dire attends, moi, quand tu fais ça, je te supporte pas. Mais quand tu fais ça, c'est ça que j'aime pas chez toi. Le reste, ça va.
Parce que c'est bien connu aussi que si on ne retourne pas suffisamment son agressivité contre l'autre, quand elle peut être justifiée, ouais. On la retourne contre soi, voilà, parfois de façon dramatique.
Voilà. Voilà.
Quand on n'est pas capable d'accuser un peu l'autre de façon légitime,
c'est là où on va se détruire.
C'est terrible. Hein,
ça se renverse. Cette accusation mal posée, ouais. elle se renverse dans la culpabilité. Exalté qui va jusqu'à la morbide et à la mort, je veux dire, ou l'envie de se détruire.
De la psychose, la somatique.
L'accusation, c'est la destruction de l'autre, la culpabilité, c'est la destruction de soi. Et donc, il y a cette espèce de autre chose. Et donc, cette histoire d'accusation, estimer l'autre et s'estimer soi-même, c'est aussi être capable de dire attends, là, vous avez mal fait. Et on peut se mettre devant ça, ouais, on peut se mettre autour de la table et c'est pas un drame, c'est-à-dire que c'est dans ce sens-là que dans cette espèce de billard infernal qu'elle appelle les catégories des fausses motivations, chacun des pôles est un pôle générateur d'autres choses et par ce mécanisme, c'est dans ce sens-là qu'on dit que le subconscient se désorganise de manière un peu légale. Pas un peu légale, lui il écrit le subconscient, se désorganise. La déformation de la psyché consciente, il écrit, elle se désorganise de façon légale.
Et cette légalité, c'est la loi d'ambivalence. C'est-à-dire qu'il y a ambivalence entre vanité, culpabilité, exaltée, et entre ce pôle-là sur soi et ce pôle-là sur l'autre. La loi d'ambivalence est antithétique à la vanité, la fierté modeste. Hein, la fierté modeste. Qui inclut les pôles positifs qui sont cachés sous vanité et culpabilité, et l'amour de l'autre, mais un amour pondéré, c'est-à-dire pas un autre imaginé avec des qualités extrêmes ou des défauts extrêmes. Ça, c'est l'antithèse. Hein. Mm-hmm. Et on pourrait aussi revenir pour la fin sur la notion de tâche exaltée. Hein. La tâche exaltée chez Dieu, c'est aux antipodes de la tâche de la vie et de la vraie vie. C'est-à-dire ce qu'on est capable de réaliser avec ce qui nous a été donné à la naissance, notre héritage, notre éducation, le contexte dans lequel on a vécu. Faire le mieux possible. Et la tâche exaltée, c'est une tâche imaginative qui décolle complètement de la réalité de ce qu'on est et de ce qu'est son contexte et qui vise des objectifs irréalisables et inharmonisables.
Je vais faire du pain d'art. Je ne sais pas si je vais la retrouver complètement. C'est devient, qui a été repris par Nietzsche,
oui.
Je crois. C'est devient ce que tu es au fur et à mesure que tu l'apprendras. C'est une très
jolie. Connaissez la première partie.
On connaît la première partie. Ouais. Si vous cherchez sur Internet,
oui,
il y a beaucoup de discussions philosophiques. Et cette phrase, elle est superbe. Parce que c'est devient ce que tu es, c'est la partie un petit peu. Je dirais de mon héritage. Et la deuxième partie, c'est au fur et à mesure que tu l'apprendras, ça veut dire que pour devenir ce que tu es, tu as besoin de l'apprendre. C'est cette co-construction dont on parlait hier soir, et c'est philosophiquement et anthropologiquement, c'est extrêmement intéressant. Je veux dire, moi, je trouve, parce que c'est l'idée, au fond, on a des choses en nous. On a c'est la parabole des potiers hein, dans le Nouveau Testament. De Jésus et où chacun est c'est la parabole du potier
c'est une base
chacun a son pot mais qui veut dire au fond on a chacun notre vase, notre pot qui est donné, et eh bien, on doit exister. C'est une parabole de l'existence, comme ça. Et dans « deviens ce que tu es », c'est au fond ce qu'on peut dire de mieux à un enfant. « Deviens ce que tu es ». C'est-à-dire que si tu peux devenir il faut que tu ailles au maximum de ton déploiement, sur le plan matériel, sur le plan intérieur, sur le plan réussite, etc. etc. C'est ce qu'on peut dire pour soi aussi, c'est ce qu'on peut se dire. Puis on verra bien. Mais en l'apprenant, vous retrouverez la face sur un aliment que la formule devient ce que tu es, de l'apprendre. Et il y a cette dimension de dynamisme évolutif de l'apprentissage. C'est-à-dire que si je ne l'apprends pas, je ne pourrai jamais devenir ce que je suis.
C'est la condition humaine qui n'a plus l'instinct. Et donc, nous, on est bien donc, dans la nécessité d'apprendre.
Le poète a une formulation qui est très...
Je pense qu'on apprend par expérience et par connaissance, donc il faut nécessairement du temps.
Absolument.
Et c'est pour ça qu'à 50 ans, on se connaît parfois bien mieux qu'à 20, parce qu'il y a l'expérience. Donc c'est inévitable, ça. Je ne pense pas que l'instinct puisse remplacer l'expérience et la connaissance.
Non.
Pour le, c'est bien oui, sûr. Oui, pour l'être humain. C'est ça, c'est indispensable.
C'est indispensable.
Tout à fait. Mm-hmm.
Et c'est dans ce sens-là que la première question hier, c'était la question de l'évolutivité. Et cette évolutivité de soi, elle est dans cette manière d'approche de carré, que Diel a formulé sous forme du carré de la fausse motivation. Si on le rigidifie, ça n'a plus aucun sens. Si ça se vide de sens. Si on l'exemplifie et qu'on l'aère et qu'on le diversifie, il prend un sens vivant, il est utile, quoi. C'est un des outils.
Ce qui est aussi très parlant, c'est la vanité greffée sur une réussite. Et ça, c'est des expériences qu'on peut faire. On a surmonté une difficulté qu'on avait, on a bien géré une situation, on sort d'une bonne entrevue avec sa mère, alors que c'est si souvent difficile. Enfin, bref. Et immédiatement, on sent que notre imagination, au lieu de rester dans la pondération, oui, pour cette fois, c'est vrai, tu pourras le refaire, et peut-être mieux, etc. Et chez le nerveux, qui a tellement l'habitude d'être en angoisse sur soi, immédiatement, la vanité se greffe. Cocorico, c'est parfait, c'est là qu'on se casse la figure d'un trottoir, qu'on tombe de vélo, et déjà, on regarde les autres, on convoque l'humanité entière qui nous regarde et qui dit bravo, on se fait tout un théâtre intérieur et un cinéma intérieur, peut-être que ça vous parle
en
pas
ski, c'est génial.
Quand on est très centré sur soi, ça arrive moins que quand on est là à palper l'estime qu'on peut s'accorder. Oui. Quand on est bien dans eux, ou qu'on a reçu une éducation qui donnait une estime juste, pondérée, ni trop lénifiante, ni trop accusatrice, mais si on sort d'une éducation où en ayant été un enfant gâté ou en ayant été un enfant frustré, on a du mal à se positionner dans la vie et à trouver et à se donner l'estime.
Est-ce que vous êtes prêt pour manger?
Ah oui.
Oui. Eh bien, c'est arrivé.